Cécilia Duterre, vous êtes critique au journal Service littéraire et sur le site Le Salon littéraire, livre.experte.com. Donc vous êtes l'auteur de plusieurs essais. Votre précédent livre, L'âme de fond, a obtenu le prix littéraire Roulement de la Fondation de France 2012. Donc vous venez de sortir un nouveau roman qui s'intitule Savannah Dream. C'est un roman qui est paru aux éditions Albin Michel. Alors tout d'abord, Cécilia Duterre, expliquez-nous un petit peu ce titre, Savannah Dream. Pourquoi un titre anglais ?
Oui, bonjour à tous. Un titre anglais parce que, enfin, américain, parce que l'action se passe dans le sud, dans le vieux sud américain, et c'est la toile de fond en fait de mon livre. Et une partie de l'intrigue se passera à Savannah, la ville de Savannah, donc en Géorgie.
Cécilia Duterre, donc ce roman, il nous permet de découvrir deux personnages, hein, c'est Julien et Maude. Alors oui. Qui est Julien, qui est Maude ?
Alors Julien est un sociologue au CNRS, il est écologiste convaincu et il se fait débaucher par Coca-Cola. Donc c'est vraiment un grand écart parce qu'effectivement bon, il a des valeurs écologistes importantes et en fait il se attiré par le prestige d'un poste qu'on lui propose à Atlanta, il part aux États-Unis et là-bas sur place il va rencontrer dans un laps de temps où il est en cours de déménagement et où sa femme, parce que cet homme est marié, il a une quarantaine d'années, il a des enfants et une vie conjugale plutôt agréable hein, jusqu'ici, il va rencontrer dans ce laps de temps où il est tout seul une femme qui s'appelle Maude hein, et qui est professeure de philosophie au lycée français d'Atlanta. Et entre eux va se nouer, je dirais, une amitié et puis plus, et quelque chose de, une relation qui va s'avérer très vénéneuse et une relation donc adultérine qui sera dévastatrice parce que cette femme est une manipulatrice et qu'elle va tisser une toile, une emprise, elle va le mettre sous emprise et elle va tisser une toile dont on découvrira qu'elle a plusieurs fils et que la manipulation n'est pas qu'une manipulation amoureuse mais beaucoup plus large et qu'elle répond à un dessin que je ne dévoilerai pas là parce que sinon je dévoilerai tout le livre.
Voilà, et ce serait dommage. Alors finalement, votre roman, Cécilia Duterre, parle de ce qu'on appelle le démon de midi.
Donc c'est un prétexte aussi à parler des ressorts de l'emprise amoureuse et sur quoi se repose l'emprise. Généralement, celui qui met sous emprise quelqu'un d'autre, alors souvent on pense à un homme qui met sous emprise une femme, mais là c'est le cas inverse et je pense que c'est une des originalités du roman. Souvent donc ce prédateur, si j'ose dire, va voir chez l'autre les failles en fait, ses failles propres et va s'infiltrer en fait en lui grâce à ses failles. Donc c'est vraiment c'est ce qu'elle va faire en fait, cet homme. Oui, vous parlez du démon de midi, mais c'est surtout qu'il est dans une forme d'insécurité, je ne dirais pas affective, là en l'occurrence, puisqu'il a une épouse avec qui il s'entend plutôt bien, mais une insécurité plus existentielle. Et il ressent au mi-temps de sa vie, effectivement, un vide existentiel qu'il va aller combler, enfin pense-t-il, hein, qu'il va pouvoir le combler dans cette relation amoureuse, qui va venir le divertir de lui-même, si vous voulez, il va se fuir par ce biais-là, et c'est bien dommage parce que ça va le conduire sans doute, alors peut-être pas à sa perte, mais en tout cas à sa chute, mais peut-être aussi que ça lui fera découvrir qui il est vraiment, et une forme de vérité sur lui-même qu'il n'avait pas affronté jusqu'à présent.
Cécilia Duterre, à partir du moment où il y a manipulation, hein, puisque c'est vous-même qui disiez tout à l'heure que Maude, un des personnages principaux de ce roman, finalement c'est une manipulatrice. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'histoire d'amour ? Est-ce qu'elle est vraiment amoureuse en tout cas ?
C'est toute la question du roman. Est-ce qu'au sein de la manipulation et de l'entreprise perverse dans laquelle elle lance les deux personnages, parce que finalement lui-même répond aussi dans une forme de perversité, c'est-à-dire que la perversité de l'un va s'enrouler dans la perversité de l'autre, est-ce que au sein même de cette entreprise et au sein même de cette manipulation, qui encore une fois est plus large qu'une manipulation amoureuse, est-ce qu'elle était sincère ? Est-ce qu'il y avait des moments en tout cas où elle était sincère ? Et jusqu'au bout, je crois que le roman ne répond pas à cette question, parce que je mets le lecteur exactement dans le questionnement de Julien, qui je parle à la première personne, donc en son nom, et lui-même se posera la question donc jusqu'au bout et le laissera sur cette interrogation. Peut-être que c'est ça le ressort absolu de l'emprise, c'est d'instiller chez l'autre l'idée que, oui, peut-être que, d'accord, il y a cette perversité, mais il y a aussi peut-être de l'amour derrière, on ne sait pas.
Mais finalement, cette dame est philosophe, hein, alors est-ce que la philosophie, ça l'aide dans sa perversité, dans ses tendances manipulatrices?
Alors, c'est une Nietzschéenne, hein, donc elle est complètement, elle est fan de Nietzsche, elle a fait sa thèse sur Nietzsche, et donc elle a une vision du monde aux antipodes, en fait, de mon héros, puisqu'elle est, bon, par définition, donc elle n'a pas de valeur spirituelle, elle nie l'existence de Dieu, alors que mon héros était, en tout cas, jusqu'à cette rencontre il avait en tout cas une aspiration spirituelle et des valeurs chrétiennes. Et puis, mais il est au moment où il la rencontre dans une perte de repère. Et justement, peut-être qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre. D'abord hasard parce que, encore une fois, manipulation qui répond à un dessein dont je ne parlerai pas, mais hasard tout simplement parce que est-ce que la rencontre existentielle entre deux personnes est véritablement un hasard? C'est la question que je pose. Si ça fait écho, si à un moment donné une rencontre fait écho en nous, c'est peut-être qu'elle répond à quelque chose de plus profond.
Cécilia Luther, le vide existentiel dont vous nous parlez il y a quelques instants, c'est un sujet récurrent dans vos romans?
Ouais, enfin, c'est en tout cas, je pense que le vide, tout le monde le ressent à un moment donné ou à un autre de sa vie. Je pense que au mi-temps de sa vie, c'est quelque chose qui peut, en tout cas, vous rattraper. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas de morale hein, dans mon roman, mais je dirais qu'en tout cas, mon héros va être obligé à un moment donné de se confronter à ce vide. Et pour sans doute le dépasser, peut-être le transcender, en tout cas mieux se connaître. Et je crois que c'est en tout cas en affrontant ce petit néant que chacun porte en soi qu'on va plus loin et certainement pas en le fuyant.
Ce qui est intéressant, Cécilia Luther, dans ce roman, c'est qu'on a toujours tendance à croire que l'amour est beau, l'amour est pur, mais là, il semblerait justement que l'amour ne soit pas aussi pur qu'on l'imagine.
Mais en tout cas, ce roman est aussi un prétexte à une réflexion sur les deux types d'amour, puisque cet homme, encore une fois, est marié et son épouse joue aussi un rôle. Hein, dans le livre, elle a un rôle, je dirais, il y a trois personnages, même si le personnage de l'épouse est moins présent, il est quand même là et dans l'ombre et elle voit ce qui se passe quelque part. Donc c'est prétexte à mettre en relation cet amour construction durable, dans la continuité. Et puis l'amour élan, l'amour désir fou qu'il a pour cette femme qui s'appelle Maud. Et à mettre en relation les deux choses. Mais évidemment cet amour fou, ce désir qu'il a pour elle inouï et qui l'ébranle complètement. Est-ce que c'est de l'amour? Oui, moi je crois que les deux types d'élan existent. Et bon, voilà, cet élan pour cette femme, hélas, va pas le mener très loin.
Cécilia Luther, avant de nous quitter, donc je voudrais rappeler quand même que vous avez un site internet, hein, donc oui. cecilia-luther.fr, hein, D-U-T-E-R. Et donc je voudrais rappeler quand même le titre de votre dernier roman, Savannah Dream, un roman qui est paru aux éditions Albin Michel. Et Cécilia Luther, je vous remercie. Jean-Claude Mourleva, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'un roman qui s'intitule Sophie Scholl, non à la lâcheté. C'est un livre qui est paru chez Actes Sud dans la collection Junior. Donc personnellement, c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui m'a ému d'ailleurs, hein, et je ne sais pas s'il s'adresse seulement aux enfants, cet ouvrage. C'est un roman historique. Qui était Sophie Scholl?
Sophie Scholl, c'était une jeune fille qui avait 21 ans en 1943 et elle s'est engagée, elle était étudiante à l'université de Munich en Allemagne. Elle étudiait la philosophie et la biologie et elle s'est intégrée à un petit groupe de résistance qui avait été fondé par son frère Hans, et qui évidemment s'est levé contre le national-socialisme. Et c'était incroyablement risqué. Elle savait que si elle était prise, elle laisserait sans doute sa vie, et c'est ce qui est arrivé. Ils ont été pris, son frère, un ami à eux et elle-même, ils ont été jugés dans un procès expéditif et inique, et condamnés à mort dans la foulée, et guillotinés. Voilà, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et voilà, j'avais fait connaissance, si je puis dire, avec Sophie Scholl lorsque j'étais encore en classe de première. C'est mon professeur d'allemand qui nous avait fait découvrir un texte écrit par sa sœur Inge Scholl, qui, pour lui rendre hommage, a écrit un livre qui s'appelle La Rose Blanche, du nom du groupe de résistance. Et voilà, j'avais été touché par cette histoire-là, et bien des années plus tard, des décennies plus tard même, j'y suis revenu sous la forme de ce petit, vous avez appelé ça roman, c'est plutôt un récit qui est très près de la réalité, et dans lequel je rends hommage à cette jeune fille courageuse.
Qu'est-ce qui vous a... Tout est émouvant dans cette histoire, Jean-Claude Mourleva. Vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement ému?
Oh, c'est le courage, le courage absolu, quoi, de cette jeune fille qui a osé résister, donc, alors qu'elle était en Allemagne, et qu'elle avait, comme toutes les jeunes filles et toutes les jeunes gens de sa génération, elle était passée par les jeunesses hitlériennes. On l'a élevée dans l'idée qu'ils étaient dans leur bon droit et qu'ils se battaient pour quelque chose de positif. Et il fallait avoir une force morale incroyable pour lutter contre ces idées qu'on cherchait à lui inculquer, et avoir le courage ensuite de résister, de se battre à l'intérieur même de ce pays-là. Parce que souvent, on sous-estime la résistance à l'intérieur même de l'Allemagne dans ces années-là. Et cette résistance existe, et je pense que c'est une très bonne chose que de faire savoir.
Jean-Claude Mourleva, donc justement, ce livre, hein, comme vous venez de l'introduire dans vos propos, pose le problème de la résistance des Allemands. Il y a des Allemands qui n'étaient pas d'accord avec Hitler et qui ont résisté, essentiellement des jeunes d'ailleurs.
Dans le cas de Sophie Scholl, effectivement, c'est un groupe de tout jeunes gens qui avaient entre 20 et 25 ans. Mais un de leurs professeurs, qui s'appelait Kurt Huber, qui lui était donc un adulte de plus de 40 ans, s'est battu avec eux. Il y a eu dans d'autres villes allemandes, Hambourg, Berlin et d'autres, des groupes de jeunes gens qui se sont battus aussi, qui se sont révoltés. C'est quelque chose qui existe. Et quand on commence à creuser un petit peu le sujet, c'est ce que j'ai fait, je me suis quand même documenté très abondamment, on découvre vraiment leur nombre, c'est ce qui est frappant. Tout le monde sait qu'il y a eu des résistants, mais on découvre qu'ils ont été nombreux et actifs, et beaucoup d'eux y ont laissé leur vie.
Jean-Claude Mourleva, dans ce livre, on apprend que Sophie Scholl et son frère, hein, ont été jugés par un juge particulièrement inique, hein, un personnage qui s'appelle Roland Freisler, de sinistre mémoire. Mais qui était ce personnage?
C'était le président du tribunal, du tristement célèbre tribunal populaire, donc qui avait pour fonction, entre autres, de juger de façon expéditive tous les opposants de toutes sortes. Et ce juge-là en particulier, Roland Freisler, avait la réputation de chercher à humilier ceux qui comparaissaient devant lui. Il était d'une agressivité terrible. Il ne laissait pas parler, il humiliait, il rabaissait, il insultait. Et d'ailleurs, on a retrouvé les minutes exactes du procès dans les archives de la Stasi. Longtemps, on avait cru qu'elles étaient définitivement perdues. Non, on les a retrouvées. Donc, on a texte exact, autant de l'interrogatoire de Sophie Scholl par l'inspecteur mort que le déroulé intégral du procès. Et on se rend compte de la violence verbal terrible de ce Roland Freisler qui hurlait, qui, comme je l'ai dit, les empêchait de parler. C'est une chose terrible. Et à la toute fin, lorsqu'on a demandé aux trois accusés de dire ce qu'ils avaient encore à dire avant d'être condamnés, Hans Scholl a parlé, Christoph Probst a parlé, autant qu'ils l'ont pu, et Sophie, elle, s'est tue. J'ai trouvé ce silence aussi très fascinant et bouleversant.
Finalement, ils ne se sont pas vraiment laissés intimider par ce juge.
Hans Scholl, en tout cas, donc le frère de Sophie, ne s'est pas laissé intimider du tout. Il a réussi à répondre, ce qui était une épreuve physique, même terrible. Il était écrasé par ce juge, la puissance, la vocale et l'agressivité de ce juge. Et il se retrouvait dans une salle remplie de dignitaires nazis, bien sûr, donc dans une solitude épouvantable. Et malgré cela, il s'est battu pied à pied. Sophie, elle, a essayé aussi. C'était très terriblement difficile. Elle a fini par se taire.
Jean-Claude Mourleva, je rappelle le titre de votre ouvrage, Sophie Scholl, non à la lâcheté. C'est un livre qui est paru aux éditions Actes Sud Junior. Je vous remercie. Pierre Grimblat, vous êtes poète, cinéaste, vous êtes auteur, producteur avec votre société Hamster, et vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Mes vies de A à Z ». C'est un livre qui est préfacé par Gérard Mordillat et qui est paru aux éditions Chifflet et compagnie. Alors tout d'abord, Pierre Grimblat, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu plusieurs vies ?
Voilà, bien plus que plusieurs. J'ai eu une foule de vie, et c'est pour ça que quand Jean-Loup Chifflet, qui est l'éditeur des livres d'humour que vous connaissez, m'a dit que j'avais eu une drôle de vie, et une vie très drôle, ça m'a convaincu de faire avec lui ma vie, non pas par ordre chronologique, mais par ordre alphabétique. C'est beaucoup plus drôle. Et même moi, à qui tout est arrivé, quand je le lis, ça me fait rire. Voilà pourquoi mes vies de A à Z. Et je suis désolé que l'alphabet s'arrête à Z, parce que j'ai encore 5 ou 6 lettres que j'aurais pu compléter avec des histoires marrantes de ma vie. En tout cas, c'est un livre drôle, parce qu'il faut le faire rire avec sa vie plutôt que pleurer.
Voilà. Pierre Grimblat, alors quand on lit votre livre, on voit que votre vie a été émaillée de beaucoup de rencontres, donc on ne pourra pas les citer toutes dans le cadre de cette interview, voilà. Mais parlez-nous un petit peu de cette rencontre avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin, hein. Je crois que c'est vous qui êtes à l'origine, on peut même dire du mariage entre Gainsbourg et Birkin.
Oui, ça m'énerve, mais je vais vous le dire, mais ça m'énerve un peu, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est moi qui ai organisé leur réunion à Jane Birkin et Serge Gainsbourg, mais que tout le restant de sa vie, le père Serge, qui est un vieux copain, qui est un très vieux copain, me disait « Tu n'as été qu'un élément du destin. » Alors ça me remet foudre. Si je me mets à foutre d'être un élément de ton destin, je me traite pas comme un élément, je ne suis pas un élément. Voilà. Ouais, pourquoi ça m'énerve. Oui, c'est le petit slogan que vous connaissez, qui est un succès mondial. Eh bien, j'avais engagé Jane, alors que lui, qui venait d'être largué par Brigitte Bardot, voulait que j'engage une vedette pour son ego, pour la presse, pour annoncer qu'il avait refait sa vie. Et j'ai apporté de l'ombre cette petite inconnue à qui j'ai fait faire des essais formidables. Alors je l'ai imposé, et pendant la première semaine, ce salaud de Serge a saboté la petite Jane, lui bouffant ses répliques, ne la regardant pas dans les échanges, et Jane venait pleurer le soir dans ma loge et disait « Le salaud, le salaud, le salaud !» Quelle chérie. Et le Ça va toujours, vous savez, on est très très amis. Et le vendredi, après ça, le jour de tombage, absolument infâme, j'ai réuni tous les deux, j'aurais dit, voilà, ce soir on va dîner à trois chez Maxime, je l'ai ça, parce qu'on ne travaille pas le samedi et dimanche, et on va discuter. Parce que si on continue le film dans cette humeur-là, on va droit dans le mur. Et qu'est-ce que j'ai fait? À votre avis, évidemment, je ne suis pas allé au rendez-vous chez Maxime pour qu'il soit tout seul. Et le lundi matin, ils sont arrivés sur le studio en se tenant la main et ne m'ont pas lâché la main de l'autre pour les 10 prochaines années. Voilà, j'ai été, et c'était plus qu'un élément du destin, avouez-le, non?
Alors, Pierre Grimblat, donc, c'est une histoire tout à fait intéressante et d'ailleurs, elle mérite d'être lue avec attention. Pierre Grimblat, dans ce livre, Mes vies de A à Z, vous parlez aussi de vos parents, hein, vous parlez de Benjamin, de Simone, vous parlez de votre appartenance au judaïsme. Comment vous vivez aujourd'hui votre relation avec le judaïsme?
Avec les États-Unis.
Avec le judaïsme.
J'y vais souvent. On va dire que je regrette et en même temps je suis heureux parce que je suis français. Mes parents étaient très fiers d'être assimilés parce que ils ont francisé notre nom Grimblat. Ça a été Grimblat quand ils arrivaient d'Autriche et de Pologne. Et mes parents m'ont éloigné de ma société. Et ont voulu que je sois français. Après tout, à l'époque des émigrations dans les années 20, j'aurais pu aller aussi aux États-Unis où nous avions des cousins. Non, mais je suis venu à France. Alors, j'ai pas voulu les déjuger. Et j'ai fait pas mal de choses pour la France. C'est-à-dire, peut-être pour ça, je suis couvert de décorations françaises. Et vous savez, Nice, pour moi, c'est là que j'ai été condamné à mort. Vous êtes au courant? Non? Silence. Eh bien oui, j'étais arrêté pour la résistance, la liaison Lyon-Nice, en transportant des valises, tout petit jeune homme, dans les trains de nuit, des valises pleines d'armes et de faux papiers. Et je me suis fait arrêter à Nice, et j'étais incarcéré et par la milice. Et puis, condamné à mort par le tribunal de la milice. Et heureusement, juste avant la date d'exécution, eh bien, la troupes italiennes qui occupaient le sud, la région PACA, ont rendu les armes aux Américains et ont ouvert les portes des prisons politiques. Voilà comment je me suis trouvé courant un matin dans les rues de Nice,
Pierre, en liberté. Pierre Grimblat, donc avant de nous quitter, je voudrais quand même rappeler que votre livre se termine par des poèmes. Hein. Donc vous nous découvrez un petit peu vos talents de poète. Donc je voudrais rappeler que vous êtes poète, cinéaste, auteur, producteur avec votre société Hamster. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mes vies de A à Z, un livre paru aux éditions Chifflet et compagnie. Pierre Grimblat, je vous remercie. Philippe Amar, vous êtes romancier, vous venez de sortir un roman qui s'intitule « Tous les rêves de ma vie », un livre qui est paru aux éditions Flammarion. Alors, je rappelle que vous, quand même, vous connaissez bien Nice, hein, puisque vous avez été étudiant en droit, vous avez été parolier pour divers artistes, vous avez été pigiste pour des magazines. Aujourd'hui, vous écrivez pour le cinéma. Et donc, « Tous les rêves de ma vie », c'est votre premier roman. Et c'est un roman qui est paru aux éditions Flammarion. Pourquoi avoir choisi ce thème de l'amnésie?
Vous savez, le thème de l'amnésie est souvent utilisé dans la fiction, en dramaturgie. Mais j'avais cette idée de repartir à zéro. On a tous l'idée, de toute façon, le fantasme de recommencer sa vie, une deuxième chance. Et j'avais cette idée comme ça, pardon, en tête. Et un jour, je discutais avec ma marchande de légumes qui me dit « Oh là là, si seulement je pouvais tout recommencer, si je pouvais tout oublier et repartir à zéro. » Et c'est là où j'ai mis en pratique cette idée de l'amnésie.
Vous aviez cette idée de l'amnésie, mais est-ce que vous n'aviez pas aussi peut-être ce désir de refaire votre vie ?
Moi, personnellement, écoutez, tout ça est de la fiction, mais je pense que effectivement tout le monde peut s'y retrouver et s'identifier, parce qu'on a tous quelque part le désir de recommencer et d'avoir cette chance de repartir selon une autre ligne de vie, peut-être.
Votre roman « Tous les rêves de ma vie » donc met en scène Sandra, c'est le personnage féminin principal. Elle en a ras-le-bol, mais ras-le-bol de quoi ?
Oh, c'est une quadra, une de ces femmes qui ont un petit peu tout donné à leur famille, à leur mari, et à leurs enfants, à leur métier, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, les femmes sont obligées de donner beaucoup à leur métier. Et un jour, elle craque, son mari la trompe, elle le sait, elle attend une petite année avant de réagir par rapport à ça. Et elle a l'intention de... Elle aimerait bien pouvoir tout recommencer, évidemment, revenir en arrière. Et revenir en arrière, pour elle, en fait, c'est synonyme de lâcher prise. Et ce lâcher prise, c'est la rencontre avec le rétroviseur d'un bus. C'est un peu symbolique, parce qu'un rétroviseur permet de regarder derrière. Bon. Et le rétroviseur la fauche. Elle se retrouve malencontreusement dans le coma, quelques jours. Et au réveil, elle se souvient effectivement qu'une amie à elle avait eu un accident puisque elle était vraiment amnésique. Et cet accident et cette amnésie, donc elle va vouloir l'imiter.
On va revenir sur Sandra, mais parlez-nous un petit peu des autres personnages de ce roman.
Écoutez, c'est bon, autour de ce personnage principal, elle est entourée de sa famille, de son mari, de ses deux adolescents, enfants, et de ses copines. Évidemment, sa famille, elle a du monde autour d'elle et ce qui va être très drôle et ce qui va créer les rebondissements, c'est qu'à partir du moment où elle va dire à tout le monde qu'elle ne les reconnaît pas, elle va être sujette à des quiproquos, sujette à des situations un peu incongrues, et pouvoir ainsi rétablir de nouvelles règles.
Finalement, Philippe Amar, cet accident dont est victime Sandra, c'est un mal pour un bien, ça lui est bénéfique ?
Oui, tout à fait. Comme vous dites, c'est un mal pour un bien. C'est un alibi. Elle a cet accident qui... Elle se réveille, elle se dit, ben tiens, voilà, je vais faire comme ma copine Linda, qui elle aussi avait eu un accident, et comme je vous disais, et qui est devenue amnésique, mais réellement, elle. Et à partir de là, je vais utiliser cet alibi pour faire croire à tout le monde qu'effectivement, j'ai tout oublié.
Cet alibi, on ne va pas déflorer le roman, mais est-ce que ça réussit ? Est-ce que vraiment elle va pouvoir réaliser les rêves de sa vie ?
Oui, elle va les réaliser. Oui, on imagine bien effectivement que de toute façon, avec ce type de dramaturgie, je démonte un peu tous les mécanismes de la vie amoureuse et du couple. Et quelque part, oui, beaucoup de lectrices m'ont dit que c'était un peu un antidote à la crise du couple.
Finalement, Philippe Amar, il y a Sandra qui veut réaliser ses rêves, mais il y a quand même aussi deux adolescents dans l'histoire. Hein. C'est les enfants de Sandra. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces filles-là ? Comment elles vivent cette métamorphose de leur mère ?
Au début, forcément, il y a le choc. Et puis, petit à petit, elles vont redécouvrir une nouvelle maman, ou peut-être une maman qu'elles auraient aimé avoir avant. Une maman qui est beaucoup plus présente, parce qu'une maman qui était avocate et qui travaillait beaucoup, qui était à l'écoute, mais qui était là, qui malheureusement n'avait peut-être pas assez de temps à leur accorder. Aujourd'hui, elles s'accordent ce temps. Elles s'accordent ce temps pour elles, mais avec une différence... C'est avec ses règles à elle.
Philippe Amar, et le personnage du mari, alors, qu'est-ce qu'il devient dans cette histoire? Bon, parce que lui, d'accord, il trompe sa femme, mais est-ce qu'il aime malgré tout?
Là, justement, ce serait déflorer beaucoup de choses que de vous dire, de vous raconter ce que le personnage du mari va devenir. Mais il est très important, puisqu'effectivement, dans un rebondissement ultime, il va réapparaître. Mais je ne peux pas trop vous dire comment, parce que sinon, je déflorerai l'histoire. Mais le mari est... Le couple, cette notion du couple est importante. Donc forcément, le mari est là, forcément.
Qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans la philosophie de votre roman?
Je dirais que ce qui me paraît très très important par rapport à tout ça, c'est le choix, la notion du choix dans la vie. La notion du choix d'aimer, de qui on va aimer, et du choix de ce que l'on a envie de devenir, de ce que l'on a envie d'être profondément, et que parfois la vie nous emmène là où on ne l'a pas prévu. Et un jour, on se dit, je ne suis pas tout à fait à ma place, et je voudrais récupérer mon libre arbitre. Je pense que c'est un peu le thème sous-jacent.
Le libre arbitre, là, c'est un côté en rapport avec la philosophie juive.
Oui, si vous voulez, si sans aller jusque-là, c'est vrai que oui, je suis très habité par ça, par cette notion de libre arbitre, et je crois que on le perd, nous sommes plus des suiveurs aujourd'hui qu'autre chose. On est encadré, on est un peu téléguidé par ce qu'on lit, par ce qu'on entend, par les médias, tout va très vite. C'est un peu de la consommation d'infos qui nous guide plutôt que de se pencher sur soi.
Philippe Amar, je rappelle le titre de votre roman, Tous les rêves de ma vie, un livre qui est paru aux éditions Flammarion. Je vous remercie.